20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, et c'est dans l'univers onirique, hypnotique de Philip Glass que nous allons nous plonger ce soir en compagnie de Katia et Marielle Labeck, alors que vient de paraître leur enregistrement de la trilogie Cocteau du compositeur américain et qu'elle sillonne la France avec ce programme dans le cadre d'un concert, d'un spectacle même associant jeux de lumière et parfums. Elles seront notamment la semaine prochaine à la Philharmonie de Paris. Avant de les retrouver à notre micro, jetons comme chaque soir un coup d'œil sur les autres événements de l'actualité musicale. C'est demain que débute la carte blanche de Klaus Mäkelä au Musée du Louvre, une série de 5 concerts qui se tiendra jusqu'au 16 juin avec les musiciens de l'Orchestre de Paris dans différentes salles du musée et dans différentes formations de la musique de chambre jusqu'au grand orchestre. Alors pour ce premier rendez-vous, un premier concert qui aura pour cadre spectaculaire la salle Charles Lebrun, où sont représentées de grandes scènes de bataille, Klaus Mäkelä sera au violoncelle aux côtés de quelques musiciens de l'orchestre pour jouer des pages de Bieber et d'Enesco. Klaus Mäkelä, qui sera d'ailleurs notre invité mercredi prochain dans le journal du classique, il nous parlera de cette carte blanche au Louvre, mais aussi de son nouvel enregistrement avec l'Orchestre de Paris et de leur grande tournée aux États-Unis qu'ils entameront dans quelques jours. Klaus Mäkelä compte également parmi les grands chefs d'orchestre qui se succéderont la saison prochaine à la tête de l'Orchestre symphonique de Chicago, aux côtés d'Andrés Orozco Estrada, qui dirigera le concert d'ouverture, de Nicolai Schepp-Snyder, Christoph Eschenbach, Marin Alsop, Jakob Rucha, Lahav Chani, Esa-Pekka Salonen, Karina Kanellakis ou encore Kirill Petrenko, un casting à faire tourner la tête. L'un d'entre eux succédera sans doute à Riccardo Muti au poste de directeur musical, l'un des postes les plus convoités du moment. La nouvelle saison de l'Orchestre symphonique de Chicago vient donc d'être dévoilée. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Radio Classique étend son réseau sur le DAB+, à savoir la radio numérique qui vous permet de nous écouter, même s'il n'y a pas d'antenne FM dans votre ville, comme c'est le cas désormais à Bayonne et à Biarritz. Le DAB+ concerne également désormais les villes de Saverne, Montauban, Saint-Brieuc, Rennes, Verdun, Sarrebourg, Le Touquet ou encore Toulon, où vous pouvez donc écouter Radio Classique. Toulon, où résonnera la semaine prochaine la musique de Gluck, Orphée et Eurydice, dans sa version française et sous la direction de Jean-Christophe Spinozzi. Une production mise en scène par Pierre Audi à l'affiche les 6, 8 et 10 mars à l'Opéra de Toulon avec Saïra Tia en Orphée et Hélène Carpentier dans le rôle d'Eurydice. Le ballet des ombres heureuses d'Orphée Eurydice de Gluck, dans l'interprétation ici de Christophe Rousset avec ses talents lyriques. Orphée Eurydice à l'affiche la semaine prochaine de l'Opéra de Toulon.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Le mythe d'Orphée inspira également un film à Jean Cocteau, film qui lui-même inspirera un opéra de chambre à Philip Glass au début des années 90. Le compositeur américain adaptera également deux autres films de Cocteau, La Belle et la Bête ainsi que Les Enfants Terribles. Une trilogie que Katia et Marielle Labeck se sont appropriées puisque Michael Riesman, l'un des plus proches collaborateurs de Philip Glass, a réalisé à partir d'extraits de ses opéras trois suites pour deux piano à leur intention. Des suites qu'elles viennent d'enregistrer, un double album tout juste sorti chez Deutsche Grammophon et une musique que Katia et Marielle Labeck jouent en ce moment en concert dans le cadre d'un spectacle alliant jeux de lumière, éléments scéniques et même parfums avec la complicité du metteur en scène Cyril Test, de la scénographe Nina Chalot et du créateur de parfums François Courtjean. Alors elles seront à la Philharmonie de Paris du 7 au 10 mars puis à Bordeaux, Metz, Lille, Lyon et donc quelques festivals d'été. Je suis allée justement les rencontrer il y a quelques jours alors qu'elles répétaient ce spectacle à la Philharmonie. Elles se sont confiées à cette occasion sur leur lien avec la musique de Glass, une musique qui est entrée dans leur vie il y a déjà plusieurs années.
C'est rentré au moment où on a découvert les quatre mouvements qu'il avait écrits pour deux pianos, qui est une pièce qu'il a écrite en 2008, et on a eu vraiment un coup au cœur pour cette pièce. On a commencé à la mettre à notre répertoire. Philippe l'a entendu, il nous a proposé d'écrire un concerto pour nous, et on s'est rencontrés vraiment physiquement pour la première fois en 2015.
Mais qu'est-ce que dans la musique de Philip Glass, dans son langage, vous touche, vous emporte, comment décrire ?
Je crois que la musique de Philip Glass, qui était très spéciale, c'est que elle laisse la place à l'auditeur, elle laisse de l'espace. Et il y a beaucoup de musiques qui sont envahissantes. C'est pas une critique, mais c'est autre chose. Et Philip parle à beaucoup de gens, à un public très différent, très mélangé, parce que justement, il a ce don de laisser l'espace.
Oui, des aspects de sa musique sont très très différentes aussi, parce que je pense que c'est la musique répétitive, mais voilà, tout dépend comment ce qu'on répète, parce qu'il a été tellement imité, tellement mal, et finalement c'est personne n'écrit comme Philip Glass, ça c'est sûr. Et la beauté des études qu'il a écrites pour piano, enfin il a écrit des choses vraiment magnifiques. Et ce que j'aime, c'est par exemple là dans le spectacle, il y a trois opéras, Orphée, La Belle et la Bête et Les Enfants Terribles, mais à chaque fois ce sont des caractères très très différents. C'est évidemment c'est beaucoup plus tragique Les Enfants Terribles, mais dans chaque pièce il y a vraiment c'est un autre monde. Et pourtant, il dit tellement de choses avec peu de notes, parfois, c'est incroyable. Cette ouverture sur la chambre d'Orphée qui est lente, qui est tellement poétique, on la joue pas exactement de la même façon, mais on la joue à chaque fois différemment. Et je crois que c'est ça, c'est très poétique, après, c'est peut-être très lyrique. Vraiment, dans la pièce qui s'appelle Miroir, c'est tellement romantique et tellement, c'est inattendu. Donc, ce que j'aime, c'est tous ces aspects. Il y a vraiment beaucoup de recherches à faire et pas seulement de jouer comme la musique. Répétitive, sans, voilà.
Alors, Katia et Marielle Labeck, vous répétez actuellement ce spectacle autour de Philip Glass, autour de cette trilogie inspirée par Cocteau. Il y a un côté très hypnotique dans cette musique. Cela met l'interprète dans quel état lorsqu'on joue une musique aussi hypnotique?
Alors, avant d'arriver dans cet état-là, c'est un énorme travail, parce que justement, il y a quand même une sorte de rubato, il y a un travail sur la dynamique énorme. Et après, effectivement, quand on commence et qu'on joue le début de la balade dans le jardin, dans La Belle et la Bête, par exemple, c'est vrai qu'on se sent nous-mêmes transportés et que c'est une chose complètement en dehors. On pense plus que c'est du piano. Moi, j'ai beaucoup les images du film de Cocteau qui est tellement incroyable quand on pense qu'il a fait ça en 46. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup l'histoire, toute la dramaturgie derrière ces opéras. Évidemment, on fait ça, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas d'orchestration, il n'y a que les deux pianos. Donc évidemment, il faut qu'on trouve toutes les ressources possibles pour trouver une palette de dynamique, pour trouver une façon de raconter une histoire. Et nos collaborateurs avec nous, parce qu'on peut pas parler, c'est pas vraiment un spectacle, c'est pas une mise en scène, c'est presque comme une installation. Il y a cet énorme lustre vraiment qui va changer les lumières d'une façon très spéciale. Chaque opéra va être sculpté avec la lumière va être sculptée d'une façon très particulière. Et voilà, c'est le plaisir aussi de la rencontre. On se connaît avec Francis Kurdjian. On vient de tester les parfums dans la salle et ça marche. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, grâce à Francis, on a rencontré Cyril Tess. Grâce à Cyril Tess, on a rencontré Nina Chalot. Donc c'est une série de rencontres qui a fait qu'on a eu tous eu envie d'être ensemble, de collaborer ensemble. Donc voilà, on n'a pas encore de nom précis pour définir ce genre de projet, mais venez.
Non, c'est vrai, on ne sait pas si c'est peut-être du théâtre musical.
Non,
on en parlait hier.
Non, ce n'est pas du théâtre musical, c'est pas de l'opéra. Non. Il y aura quand même la voix de Cocteau, et ça c'est magique, qu'on va diffuser dans la salle sur quelques extraits avant que chaque opéra commence. Il a dit des choses tellement belles. Cocteau était un artiste exceptionnel. Vraiment peintre, sculpteur, dessinateur, poète, écrivain, cinéaste. C'est fou.
Oui, c'est normal qu'ils s'entendent bien d'ailleurs, qu'ils soient bien entendus avec Philip Glass, parce que Philip aussi, il était intéressé par toutes les genres de musique. Il a voyagé dans le monde entier, il a étudié, même ici, étudié avec Nadia Boulanger. De toute façon, son parcours de vie est hallucinant, vraiment. Je parle toujours de son livre, mais à chaque fois, je dis à tout le monde de le lire, parce que je pense que depuis que je l'ai lu, quand même, je sais pas, je le vois d'une façon différente.
Et l'univers de Cocteau, l'univers onirique, surréaliste, d'Orphée, de la Belle et la Bête, des Enfants terribles, dans quelle mesure il correspond à l'univers aussi onirique de Philip Glass? On a l'impression qu'il y a chez ces deux créateurs un côté onirique, oui, rêveur, qu'il réunit.
Je crois que la base, c'est quand même, Philippe en parle très bien, il dit que c'est vraiment la dualité. À chaque fois, c'est la Belle et la Bête, c'est Orphée et la Princesse, c'est Paul et Elisabeth. Il y a vraiment tout le temps cette dualité. Et après, ce qui intéresse beaucoup Philippe et qu'il fait dans sa musique, c'est la métamorphose et c'est la création. Et c'est toujours ça chez Cocteau, c'est le monde du réel, mais d'un monde bien, normal, et d'un monde magique. Il dit souvent, d'ailleurs, non, pas d'un monde merveilleux, d'un monde magique. Il alterne dans La Belle et la Bête surtout les deux mondes avec... nous, au piano, on le ressent, en tout cas. Dans l'écriture de Philippe, ça se ressent.
Oui, c'est très différent. Son écriture-là, par exemple, dans les quatre mouvements, c'est beaucoup plus pianistique, c'est vraiment différent. Mais là... Souvent, d'ailleurs, quand je commence à jouer cette musique, j'ai l'impression de commencer le début de Ma Mère Loi, par exemple, c'est la pavane. C'est tellement beau, cette musique. On joue vraiment quatre notes et on est tout de suite transporté dans un autre monde. Et c'est un petit peu ce qui se passe là, et surtout quand on joue sur scène, évidemment. J'espère qu'en enregistrement, c'est même, pour une salle de concert, il y a la lumière, il y a tout ça. Donc c'est vrai qu'on a de la chance là d'avoir le lustre et d'avoir les parfums, parce que ça va aider à créer un climat plus étrange, qui sort du concert traditionnel, quoi.
Mais alors justement, quelle lumière et quel parfum s'associeront à la musique de Philip Glass?
On ne peut pas en parler parce que ça va être une découverte, mais chaque opéra aura son parfum. Et l'idée, c'est que le parfum de La Belle peut se superposer à celui d'Orphée, et qu'ensuite il y a l'entracte, et que celui qui arrivera pour Les Enfants terribles se superposera au mix qui restera dans la salle. Donc on vient de... sentir, et c'est un truc.
Ouais, c'est vraiment. Si. Moi, je le porte sur moi. Ouais, c'est très bon. Ça c'est la première fois qu'on fait ça.
Et vraiment, ça va être un mélange des trois.
Ah, ça sent bon, c'est frais, ça.
Qui sent le.
Là, c'est le début d'Orphée où il voit quelque chose de très blanc.
Il voit quelque chose un peu de. Comme un paysage de ciel très doux à travers une fenêtre. Ça, c'est évidemment la rose. Ça, c'est le jardin, c'est la rose de la Belle et la Bête. Enfin, on peut pas éviter le parfum de la rose. Et ça, c'est un parfum plus de bois vert pour les enfants terribles. D'une maison, presque de l'intérieur d'une maison.
Et comment le public pourra-t-il sentir ces parfums? Il aura des...
Ils vont diffuser à travers l'air conditionné. Donc c'est quand même incroyable. Et ça marche, parce qu'on sort de la salle là, et ça marche très très bien.
Et du coup, vous allez sentir les parfums quand vous allez jouer. Est-ce que quelque part, vous qui l'avez testé, cela influence votre jeu?
Mais ça fait des années qu'on porte les parfums de Francis, et Marielle porte tout le temps son parfum qui s'appelle la rose. Donc évidemment, elle se sent... Et dans le mien, qui est Oud, il y a de la rose aussi. Donc oui, on se sent vraiment... complètement à la maison. Tout le temps avant de rentrer sur scène, je me parfume.
Vous jouez depuis des années la musique de Philip Glass. Quel public touchez-vous quand vous jouez sa musique? Vous commencez à le connaître, ce public, un public différent? Est-ce que vous avez l'impression, Katia Marielle Labeck, qu'il y a plus en plus de personnes aujourd'hui sensibles à sa musique?
Je pense que une partie de notre public est venue avec nous. Ça, c'est certain. Le public qui venait pour Ravel, pour Debussy, pour Stravinsky, pour Mozart, pour Schubert, il est resté avec nous. Pour Philip Glass, et ça a été une découverte comme ça l'a été il y a 35 ans avec Rhapsody in Blue. Donc ça a été un peu la même chose, et je pense que ça c'était important parce que on n'allait pas jouer Gershwin toute notre vie, c'est-à-dire on était très heureuse de le jouer, ça a été formidable dans les années 80, mais ensuite c'est vrai que c'était un plaisir énorme de faire découvrir à notre public la musique de Philip Glass. Quand on a commencé, je me souviens, à Amsterdam, Concertgebouw, le promoteur ne voulait pas, il disait non, mais ça va faire fuir mon public, c'est hors de question. Comme on le connaissait bien, on lui dit écoute Marco, fais-nous confiance, et on va faire ce concert. Si tu n'es pas content, écoute, mets-le avant l'entracte, les gens resteront après, parce qu'il y a Ravel, ils vont rester. Il m'a dit, bon, alors c'est vraiment parce que c'est vous, mais vraiment, je n'y crois pas du tout, ça marchera jamais. Et on a fait ça, on a joué les quatre mouvements juste avant l'entracte, et la salle s'est levée d'un coup, c'était un succès énorme. Et après Ravel, qui a fini le concert, on a dû rebisser la fin des quatre mouvements. Et donc, depuis ce moment-là, c'est vrai que on a appris à ce public qui nous suit, qui nous est fidèle, à découvrir et à aimer la musique de Philippe Glass. Et après, il y a un public qui n'était pas le nôtre, qui est venu, qui est un public qui suit plus les opéras, les mises en scène, les films, et qui est venu parce qu'ils adorent la musique de Philippe Glass.
Mais même à New York, hein, quand on a fait, en fait, la création de son concerto, quand on a joué avec Jaap van Zoden, il nous a demandé ce qu'on voulait jouer, on voulait jouer Philippe Glass, et en fait, eh ben, Philippe Glass n'avait pas été joué. Jamais. Avec l'Orchestre Philharmonique de New York. Enfin, c'est incroyable. Il a joué à l'opéra. Enfin, il a fait d'autres choses. Il y a quand même beaucoup d'endroits comme ça où les gens avaient décidé que Philippe Glass, c'était pas assez intéressant ou c'était pas. Alors, nous, on aime bien un peu casser ça et leur dire que non, il y a la musique très, très belle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et les études, pour moi, c'est la dernière étude de Philippe Glass. C'était vraiment une merveille. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Mais il y a des gens qui n'ont même pas écouté ou fait un effort. Ils ont vraiment décidé un jour que non, cette musique, voilà, musique répétitive, c'était pas la peine. Regardez le succès du Boléro, quoi. Donc, tout dépend comment on répète les choses.
Et après, c'est vrai qu'il y a deux techniques, il y a deux optiques dans l'interprétation de la musique de Philippe Glass. Il y a l'optique qui dit, non, la musique se suffit à elle-même, il faut rien faire, il faut la jouer. Donc, ça donne beaucoup d'interprétations très métriques, très mécaniques, et qui, pour moi, ne correspondent pas beaucoup à l'univers de Philippe. Je me souviens, dans son livre qu'il a publié sur les études, justement, il raconte, Timo Andrés raconte que la première fois qu'il est allé jouer des études à Philippe, Philippe lui a dit « Ah non, non, mais vous jouez tellement mécanique, il faut vraiment jouer ma musique comme du Schubert. » Et en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de passages, ça n'est pas du Schubert, mais on sent qu'il y a cette réminiscence de Schubert, il y a un Schubert très lointain, mais on sent qu'il est là.
On sent surtout qu'il a écouté cette musique. Enfin, son père avait un magasin de disques, en fait. Et tous les soirs, il rentrait, il écoutait. Et Philippe se cachait en haut de l'escalier et il écoutait tous les quatuors de Schubert. Alors, c'est vrai, je le sens. Il a écouté les symphonies de Bruckner. Il a écouté vraiment tout. Il a absolument tout écouté. Que soit la musique française, que soit la musique indienne, que ce soit, vraiment, il en parle très bien.
Rock, mais c'est le pop.
Absolument tout. C'est beau, l'improvisation, tout l'intéressé, tout le... Pour ça, je trouve dans sa musique, il y a beaucoup d'aspects. C'est très riche, en fait. C'est plus riche que ce qu'on entend parfois. Il y a des choses qu'on peut vraiment développer, toujours. Et on retravaille et on retrouve des choses. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu. Ou j'aime bien ça.
Et là, vous jouez des arrangements qui ont été écrits pour vous, de cette trilogie, donc des œuvres qui sont à l'origine des opéras. Quand vous jouez ces œuvres qui sont donc narratives, vous avez, j'imagine, les images des films de Cocteau. Vous êtes dans une démarche dramatique aussi.
J'espère que le public le ressent, oui. Nous, on est vraiment dans cette démarche-là. Les arrangements sont faits par Michael Riesman, qui collabore avec Philippe Glass depuis le début de la vie musicale de Philippe. Et oui, pour nous, c'est très clair. L'histoire est présente. Chaque pièce, on a choisi des pièces qui les plus importantes narrativement de chaque opéra. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de redécouvrir ces opéras. Ça paraît bizarre, mais finalement, de les débarrasser de l'orchestration et des chanteurs, on entend beaucoup mieux les lignes mélodiques et les rythmes. Et c'est un peu comme quand on a joué le Sac du printemps, la version à deux pianos, au lieu de l'orchestre. Évidemment, ça remplace pas l'orchestre, qui est génial. Mais c'est un peu comme voir un squelette, c'est un peu comme voir quelque chose de très dessiné. Et en même temps, on peut bouger beaucoup plus.
Alors, vous qui connaissez bien la musique américaine, Katia Marielle Labette, puisque vous ne jouez pas que la musique de Philippe Glass, quel serait pour vous le ou les successeurs aujourd'hui de Philippe Glass, ceux qui perpétuent son héritage, son langage, tout en bien entendu le réinventant?
Alors, le premier qui me vient à la tête, vraiment, c'est Nico Mouly, parce qu'il a été son collaborateur, il a fait des arrangements, il a fait beaucoup de choses, et il est très proche de l'esprit de Philippe, et Bryce Dessner, évidemment, parce que lui, il est tellement riche dans sa façon d'écrire. C'est aussi à sa façon un peu ce qu'a fait Philippe, c'est-à-dire Brass est le seul exemple que je connaisse d'un compositeur qui a vraiment les pieds dans le rock. Il joue avec The National, qui est son groupe, et il joue tous les soirs devant des salles de 70 000 personnes, mais en même temps il écrit pour New York Philharmonie, pour Chicago, il est en train d'écrire un opéra pour Chicago. Donc c'est le seul compositeur que je connaisse qui a vraiment la maîtrise des deux mondes et la connaissance, comme Philippe, ce que disait Marielle là, de tous les mondes musicaux.
Et du coup, après cette grande tournée Philippe Glass, dans quel univers musical allez-vous vous plonger? De la musique américaine encore ou un autre univers?
Nico Mouly.
Mais effectivement, on part en tournée aux États-Unis avec les concertos de Nico Mouly, de Bryce Dessner et de Philippe Glass.
Merci infiniment, Katia Marielle Labeck. On se réjouit de découvrir ce spectacle autour de Philippe Glass, de cette trilogie Cocteau. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup. À vous. Là. Un extrait des Enfants Terribles de Philippe Glass, un extrait de cette trilogie Cocteau qui vient de faire l'objet d'un enregistrement discographique sorti chez Deutsche Grammophon, enregistrement de Katia et Marielle Labeck qui jouent justement cette musique en concert à travers la France. Prochain rendez-vous du 7 au 10 mars à la Philharmonie de Paris, le 23 à Bordeaux, le 27 à Metz, puis à Lille, Lyon et au Festival Ravel. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Lundi,
nous serons avec la réalisatrice Anne Fontaine et le comédien Raphaël Personnaz pour parler du film Boléro, un très beau film sur Ravel qui sort mercredi prochain sur les écrans. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.